Chapitre 33. Le blog avait pris forme et acquis de la maturité. Tour à tour, il la surprenait, lui plaisait, la dépassait. Le nombre de ses lecteurs s'accrut, des milliers dans le monde entier, si vite qu'elle résistait à l'envie de consulter les statistiques, préférant ignorer combien de nouveaux clics elle avait eus en un jour parce que cela l'effrayait et l'excitait. Quand elle vit ses posts retranscrits sur un autre site, elle eut un élan de triomphe. Pourtant, elle n'avait jamais imaginé une telle réussite, ni était animée d'une ambition bien définie. Des emails lui parvenaient de lecteurs qui voulaient soutenir le blog. Soutenir. Ce seul mot faisait de son blog un site indépendant d'elle, une chose séparée qui pouvait prospérer ou péricliter, tantôt sans elle, tantôt avec elle. Elle créa un lien avec son compte PayPal. Des crédits apparurent. Beaucoup d'entre eux très petits, et l'un si important qu'elle laissa échapper un cri en le découvrant. Le versement réapparut tous les mois, anonyme, aussi régulier qu'un salaire, et chaque fois, elle restait confondue, comme si elle ramassait quelque chose de valeur dans la rue sans le restituer. Elle s'interrogeait, se demandant si l'argent venait de Kurt. Est-ce qu'il suivait son blog et dans ce cas, pensait-il être qualifié d'ex-blanc sexy? C'était une interrogation mitigée. Elle regrettait ce qui aurait pu être, mais il ne lui manquait plus. Elle vérifiait trop souvent sa boîte email, comme un enfant déchirant avec impatience l'emballage d'un cadeau qu'il n'est pas sûr de désirer, et elle lisait les messages de personnes lui demandant de prendre un verre avec elle, l'accusant d'être raciste ou lui suggérant des thèmes de discussion. Un blogueur qui fabriquait des crèmes pour les cheveux lui proposa de faire de la publicité et, pour une somme modique, Ifemelu plaça la photo d'une femme à l'abondante chevelure en haut à droite de sa page. En cliquant dessus, on accédait au site du fabricant. Un autre lecteur offrit de payer davantage pour une annonce clignotante qui montrait d'abord un mannequin au long cou dans une robe moulante, puis le même mannequin coiffé d'un chapeau à large bord. En cliquant sur l'image, on obtenait l'adresse d'une boutique en ligne. Bientôt, elle eut des publicités pour les shampoings Pantene et les cosmétiques CoverGirl. Puis un email du directeur du bureau multiculturel d'une école privée du Connecticut, si solennel qu'elle l'imagina taper sur du papier orné d'armoiries, lui proposant de venir parler à ses élèves au sujet de la diversité. Un autre, d'une société en Pennsylvanie, rédigé de manière moins officielle, lui disant qu'un professeur l'avait identifiée comme une blogueuse aux idées provocatrices et lui demandait de diriger leur atelier annuel consacré à la diversité. Un rédacteur du Baltimore Living désirait la faire figurer dans une rubrique intitulée « 10 personnes à suivre ». Elle était photographiée près de son ordinateur, le visage dans l'ombre, sous le titre « La blogueuse ». Le nombre de ses lecteurs tripla. Les invitations se multiplièrent. Pour répondre aux appels téléphoniques, elle portait son pantalon le plus convenable, son rouge à lèvres le plus discret, et elle se tenait assise très droite à son bureau, jambes croisées, parlant d'une voix posée et assurée. Malgré tout, une partie d'elle-même était tendue, redoutant que la personne à l'autre bout de la ligne s'aperçoive qu'elle jouait la comédie, qu'elle n'était en fait qu'une malheureuse chômeuse vêtue toute la journée d'une chemise de nuit froissée, et la taxe d'imposture en raccrochant. Mais d'autres invitations affluèrent. Les frais d'hôtel et de voyage étaient couverts, et les honoraires variables. Un jour, sur une impulsion, elle déclara qu'elle voulait le double de sa rémunération de la semaine précédente. Et elle s'étonna quand son interlocuteur qui appelait du Delaware dit « Ouais, c'est possible ». La plupart des gens qui assistèrent à sa première intervention sur la diversité, dans une petite entreprise de l'Ohio, étaient chaussés de baskets. Ils étaient tous blancs. Sa présentation avait pour titre « Comment parler de race avec des collègues d'autres races ?» Mais à qui, se demanda-t-elle, allait-il parler puisqu'ils étaient tous blancs? Peut-être le gardien était-il noir? Je ne suis pas une experte. Aussi, ne prenez pas mes propos pour argent comptant. Avait-elle commencé, et ils se mirent à rire, un rire chaleureux d'encouragement. Elle se dit alors que tout se passerait bien. Elle n'aurait pas dû craindre de s'adresser à une salle pleine d'inconnus au milieu de l'Ohio. Elle avait lu, avec quelque appréhension, qu'il existait encore dans la région des villes Sundown. Le premier aspect d'une communication honnête en matière de race et de comprendre qu'on ne peut pas mettre sur le même pied toutes les formes de racisme, dit-elle. Puis elle se lança dans un discours soigneusement préparé. Quand à la fin elle dit « merci », contente de la fluidité de son expression, les visages qui l'entouraient étaient figés. Leurs applaudissements embarrassés la démoralisèrent. Plus tard, elle resta seule en compagnie du directeur des ressources humaines, à boire du thé glacé trop sucré dans la salle de conférence et à parler de football, dont il savait que les Nigérians étaient de bons joueurs, comme s'il cherchait à parler de n'importe quoi sauf de l'exposé qu'elle venait de faire. Ce soir-là, elle reçut un email. « Ta conférence était du flan. Tu es une sale raciste. Tu devrais nous remercier de t'avoir accueilli dans ce pays. » Cet email, entièrement écrit en capitale, fut pour elle une révélation. Le but des ateliers sur la diversité ou des conférences sur le multiculturalisme n'était pas de provoquer un quelconque changement, mais qu'à la fin les gens se sentent bien dans leur peau. Ces gens-là ne s'intéressaient pas au contenu de ses idées. Ils s'intéressaient uniquement à la signification de sa présence. Ils n'avaient pas lu son blog, mais ils avaient entendu dire qu'elle était la première blogueuse en matière de race. Et ainsi, dans les semaines qui suivirent, elle donna d'autres conférences dans des entreprises et des écoles et se mit à dire ce qu'ils avaient envie d'entendre, rien de ce qu'elle écrirait jamais sur son blog. Parce qu'elle savait que les gens qui lisaient son blog n'étaient pas les mêmes que ceux qui assistaient à ses ateliers sur le multiculturalisme. Au cours de ses interventions, elle disait « L'Amérique a fait de grands progrès dont nous devrions être très fiers. » Dans son blog, elle écrivit « Le racisme n'aurait jamais dû naître. Par conséquent, n'espérez pas recevoir une médaille pour l'avoir réduit. » D'autres invitations continuaient d'arriver. Elle engagea une étudiante comme stagiaire, une haïtienne américaine, coiffée d'élégantes vanilles, qui connaissait Internet comme sa poche, dénichait toutes les informations dont Ifemelu avait besoin et supprimait les commentaires indésirables aussitôt qu'ils étaient postés. Ifemelu acheta un petit appartement. En lisant les annonces immobilières dans le journal, elle avait constaté avec stupéfaction qu'elle disposait d'assez d'argent pour effectuer le versement initial sans emprunter. Sa signature, au-dessus de la mention propriétaire, lui laissa l'inquiétante impression d'être soudain devenue adulte, et aussi la surprit légèrement. C'était possible grâce à son blog. Elle transforma l'une des deux chambres en bureau et s'y installa pour écrire, se tenant souvent à la fenêtre pour contempler son nouveau voisinage de Roland Park, les rangées de maisons restaurées à l'ombre de vieux arbres. Elle était étonnée de voir parmi ses postes lesquels retenaient l'attention et lesquels n'attiraient que quelques clics. Son poste concernant les rencontres en ligne, quel rapport avec l'amour, continuait, après de nombreux mois, à susciter des commentaires comme quelque chose qui vous colle au doigt. « Bon, encore un peu triste après la rupture avec l'ex blanc sexy, n'étant pas adepte de la drogue dans les bars, je me suis inscrite sur un site de rencontres et j'ai examiné quantité de profils. Voici le problème. Dans cette catégorie où l'on choisit l'appartenance ethnique, les hommes blancs cochent les femmes blanches, les plus aventureux choisissent les Asiatiques et les Hispaniques. Les hommes hispaniques cochent les blanches et les Hispaniques. Les Noirs sont les seuls à cocher toutes, mais certains ne cochent même pas les Noirs. Ils cochent blanches, Asiatiques, Hispaniques. Je ne voyais pas vraiment l'amour là-dedans. Mais quel rapport entre l'amour et toutes ces cases de toute façon? Vous pourriez entrer dans une épicerie, croisez quelqu'un dont vous tombez amoureuse sans que cet homme soit de la race que vous avez cochée sur Internet. Donc, après avoir navigué sur le net, j'ai annulé mon inscription. Heureusement, j'étais encore en période d'essai, j'ai été remboursée. J'irai faire un tour à l'épicerie. » Les commentaires provinrent de gens ayant des histoires similaires à raconter et d'autres affirmant qu'elle se trompait, d'hommes qui lui demandaient d'afficher sa photo, de Noirs faisant part de leur succès sur les sites de rencontres, d'individus en colère ou enthousiastes. Certains commentaires l'amusaient, parce qu'ils étaient sans aucun rapport avec le sujet du poste. « Oh, allez vous faire foutre !» écrivait l'un. « Tout est plus facile pour les Noirs. Vous n'arrivez à rien dans ce pays à moins d'être noir. Les femmes noires ont même le droit d'être plus grosses !» Son poste hebdomadaire, Millimélo du vendredi, mélange de réflexion, attirait un plus grand nombre de clics et de commentaires chaque semaine, Il lui arrivait de rédiger des posts en s'attendant à des réactions déplaisantes, l'estomac noué par l'appréhension et l'excitation. Mais elle constatait qu'il ne suscitait que l'indifférence. Maintenant qu'elle était invitée à participer à des tables rondes et à des groupes de discussion, à la radio publique ou locale, toujours identifiée sous le nom « la blogueuse », elle se sentait partie intégrante de son blog. Elle était devenue son blog. La nuit, pendant ses insomnies, son malaise grandissant revenait à la surface. Et les nombreux lecteurs du blog devenaient, dans son esprit, une foule furieuse et accusatrice, prête à l'attaquer, à la démasquer. Tribune ouverte à tous les Noirs qui ont la bouche cousue. Ceci est destiné aux Noirs qui restent muets, aux Noirs américains et non-américains qui montent dans l'échelle sociale et ne parlent jamais de leurs expériences exclusivement liées au fait d'être Noirs, parce qu'ils ne veulent choquer personne. Racontez ici votre histoire. Ouvrez la bouche. Cet espace est sûr.